Vous écoutez, on lit pour vous.
Sophia Fassi Ferry, le fauteuil, c'est comme une paire de chaussures, ça permet d'avancer, c'est tout. Dans son cas, disons plutôt, de foncer. Un texte d'Aline Vanco-Pernol, paru dans l'édition automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. Le sport lui a offert une deuxième famille et lui a apporté l'autonomie, la force de porter son poids, et il l'aide à socialiser, à se dépasser. Sophia Fassi Ferry, 34 ans, a toujours eu l'esprit fonceur, actif, aventurier, téméraire, curieux. Elle n'a pas hésité à quitter son Maroc natal en 2007, à l'âge de 18 ans, pour venir s'installer au Québec. Et même après son accident de moto qui lui a enlevé l'usage des jambes et a paralysé son épaule droite en 2013, elle s'est relevée en se disant simplement « Je ne peux pas remarcher, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Sophia fait partie de l'équipe nationale de basketball en fauteuil roulant depuis l'an dernier. Son engagement s'est fait tout naturellement quand le coach de l'équipe canadienne, qui est aussi son coach dans l'équipe du Québec, lui a demandé si elle souhaitait participer à un camp d'entraînement avec l'équipe. Elle a dit oui, pourquoi pas? Le sport faisant partie intégrante de sa vie depuis sa plus tendre enfance, s'entraîner 15 à 20 heures par semaine entre la pratique du basket et le lifting au gym ne lui fait aucunement peur. Au contraire, c'est un style de vie à part entière qu'elle a adopté et qui lui permet de se dépasser, de socialiser, de rencontrer des gens, de voyager, peut-être un peu trop à son goût ces derniers temps, car ses études comptent aussi. Le sport m'a beaucoup, beaucoup aidé après mon accident. C'est une des choses qui m'a le plus aidé. Je suis parvenue à être autonome. Je fais mes transferts facilement. J'ai un poids santé qui est facile à porter. J'ai rencontré des gens qui étaient rendus à une autre étape, des gens qui étaient depuis 10-15 ans en fauteuil, qui voient les choses avec une autre perspective. Et je me disais, si eux ont réussi à faire les choses, pourquoi pas moi? Sophia est têtue. Si les gens me disent que quelque chose n'est pas possible, on me met au défi et je le fais. C'est comme ça que je suis partie en Grèce, faire du kite surf adapté. Le sport et pas seulement. Avant son accident et dans sa jeunesse, le foot, soccer, était toute sa vie. Je n'en ai pas fait en compétition, mais j'avais le niveau. J'ai fait d'autres choix. Ces choix ont été d'étudier et de voyager, un voyage humanitaire au Cameroun pendant 4-5 mois avec d'autres étudiants de Polytechnique, ou encore un échange étudiant en Finlande avant sa graduation au bac en génie chimique en juin 2013. Ce voyage-là, c'était juste avant son accident. Le mois suivant, en juillet, la vie de Sophia allait changer. Tout semble s'être passé très vite. Un souper arrosé avec des amis, un ami qu'elle force à emmener ailleurs pour continuer la soirée, une voiture qui les renverse. Résultat, une paralysie de l'épaule droite et des deux jambes, toutes les côtes cassées. Elle ne s'est pas ratée, comme elle dit. La chute a été dure. La nouvelle qu'elle ne remarcherait pas aussi. Mais l'important était de continuer et de se dire « Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Je veux retourner chez moi, être autonome et indépendante. » L'indépendance et la bougeotte sont des caractéristiques de la famille Fassi-Ferry. Le frère de Sophia était déjà au Québec avant son arrivée et ses sœurs sont venues l'aider après son accident. Ses deux sœurs jumelles, Myriam et Zineb, un an de moins que Sophia, ne sont jamais reparties. Elles sont restées avec elle, tout simplement. Le basket en famille. Myriam, Zineb et Sophia sont de vrais complices. Les jumelles suivent leur grande sœur dans toutes ses aventures. En voyage, en road trip aux États-Unis ou en tout inclus au Mexique, mais aussi dans le sport. Après l'accident, je cherchais un autre sport. On m'a présenté différentes options, dont l'athlétisme, mais j'ai vite abandonné. J'ai aussi fait du ski alpin, du ski nautique et le basket. Mes sœurs ont essayé le basket en fauteuil en même temps que moi et elles ont adoré, même plus que les autres sports qu'elles font debout. Ma sœur m'a même dit « Si tu n'en fais pas, moi je vais en faire. » Les trois complices ont finalement embarqué ensemble jusqu'au niveau provincial. Au national, Sophia y est allée seule car ses sœurs ne sont pas qualifiables, elles ne sont pas en fauteuil. Une expérience olympique serait l'idéal selon Sophia. Les Jeux d'été de Paris sont proches, mais l'équipe canadienne n'est pas encore qualifiée. La sélection se fait environ 2 mois à l'avance. Il reste 2 chances de qualification. La première en novembre, aux Jeux parapanaméricains au Chili, et la seconde en avril au Japon. Quand Sophia parlait de voyage, nous souhaitons bonne chance à l'équipe. Ses études, un choix réfléchi. Sophia est une touche-à-tout. Elle a obtenu un bac en génie chimique, un DESS en administration des affaires et un certificat en informatique. « Mais je n'aimais pas », explique-t-elle. Alors l'étudiante s'est lancée dans un nouveau cursus à l'Université de Montréal, l'ergothérapie. Beaucoup de monde est déconnecté de la réalité dans le milieu de la santé. J'ai vu des gens sortir de réadaptation avec des fauteuils énormes qui n'étaient pas adaptés pour eux. J'aimerais faire des changements de l'intérieur du système. L'esprit rebelle de Sophia lui donne envie de changer le monde et d'apporter un souffle nouveau à l'enseignement qu'elle reçoit, notamment en proposant des cours pratiques et des rencontres avec des personnes en situation de handicap pour prendre conscience des réalités qu'elles vivent au quotidien. En voyage. Sophia voyage rarement seule. Ses sœurs l'accompagnent et la suivent dans ses délires. C'est vrai qu'il faut prendre en considération le fauteuil. Je m'assure que l'hôtel est au moins accessible. Pour le reste, je me débrouille s'il y a une baignoire ou une douche. Je loue une voiture pour faciliter les déplacements. Et pour les visites, je vérifie si elles sont accessibles. Je connais mes limites quand même. Je ne descendrai pas 50 marches. Je laisse mes sœurs y aller et je les attends. Sophia, dans la communauté LGBTQ+. Faire des rencontres quand on est en fauteuil, ce n'est pas la chose la plus difficile, mais c'est différent. Dans la communauté LGBTQ+, certainement comme ailleurs. Juste après son accident, il n'était pas question de chercher à faire des rencontres, l'esprit de Sophia n'y était pas. Mais petit à petit, elle s'y est remise. En général, elle fait des rencontres dans ses groupes d'amis. Quand quelqu'un me voit, au début, la personne voit le fauteuil, mais quand on commence à discuter et qu'on apprend à se connaître, alors, elle oublie facilement le fauteuil. Dans un bar, l'approche est plus difficile. Je n'irai pas aborder quelqu'un assis au bar, par exemple, mais je le vois tout de suite. Si la fille ne veut pas rencontrer quelqu'un en fauteuil. Et de toute façon, c'est bien, parce que je ne voudrais pas rencontrer quelqu'un qui ne veut pas être avec une personne en fauteuil. Question sortie, Sophia aime prendre l'initiative et, heureusement, parce qu'elle raconte que c'est elle qui doit être proactive et pas mal tout organisée. Pas beaucoup de choix en étant en fauteuil. Mais la jeune femme rit en disant ne pas se spécialiser dans les relations longues. Pas seulement depuis l'accident. L'importance de l'humour. L'humour a toujours été un très bon outil d'approche pour Sophia. elle reconnaît que les gens sont plus curieux et plus ouverts qu'avant concernant le fauteuil. Mais elle sent aussi toujours un petit malaise, une petite gêne. Là, l'humour peut faire des miracles, même avec les autres étudiants à l'université. J'aime rire. Si quelqu'un fait une blague sur le fait que je suis en fauteuil, c'est une victoire pour moi. Ça veut dire que le fauteuil n'a plus d'importance. Si la personne est capable d'en rigoler, ça veut dire qu'il n'y a plus de malaise, se réjouit naturellement Sophia. Et elle conclut sagement, « Le fauteuil, c'est juste comme une paire de chaussures, ça permet d'avancer, c'est tout. » C'était Sophia Fassiferi, « Le fauteuil, c'est comme une paire de chaussures, ça permet d'avancer, c'est tout. » Dans son cas, disons plutôt « foncé », un texte d'Aline Van Coupernol, paru dans l'édition Automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. Laurence Perrault-Rousseau, « Entre douceur et audace », un texte de Mélissa Lévy, paru dans l'édition Automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. Suivre ses rêves. De l'autre côté de l'écran, c'est une jeune femme à l'œil brillant et à l'esprit vif qui me regarde. Éloquente, juste, avec toute la douceur du monde dans la voix, elle me raconte son parcours professionnel en tant que femme en situation de handicap sur le marché du travail. Elle est aux prises avec plusieurs problématiques de santé sérieuses, comme le spina bifida et l'hydrocéphalie. Elle a fait le choix d'un chien d'assistance au lieu d'une canne. Son chien fait partie d'elle et ce choix a changé sa vie en mieux. Très tôt, elle a dû développer la patience, la ténacité et la confiance en ses capacités. Malgré tout, j'ai été chanceuse, me dira-t-elle peu de temps après le début de notre rencontre. Celle qui est maintenant coordonnatrice pour l'organisme Action Femmes et Handicap a longtemps rêvé de décrocher un emploi d'été à l'adolescence. Mais plusieurs chirurgies, à travers les années, ont freiné ses élans. Elle a toujours su qu'une fougue l'habitait et qu'une force tranquille allait la guider. Cette fougue lui a permis de suivre ses rêves et d'aller à la rencontre de son premier amour, le théâtre. Au début de la vingtaine, après avoir obtenu un diplôme d'études collégiales en théâtre, un baccalauréat en arts dramatiques et avoir été placière pendant quelque temps dans une salle de spectacle, elle a fondé sa propre compagnie de théâtre. Devenir entrepreneur au début de ma carrière m'a tellement appris, notamment le sens de l'organisation et le leadership. Deux compétences qui l'ont accompagnée pour la suite de son parcours et qui l'ont facilitée. Après cette incursion dans le monde du théâtre, Laurence a œuvré dans le domaine communautaire. Elle a d'abord été chargée de projet et ensuite directrice à l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au poste secondaire, chargée de projet en employabilité chez Vie Autonome, adjointe de développement à l'Association québécoise pour la voile adaptée et enfin coordonnatrice pour l'organisme Action Femmes et Handicap depuis peu. La chance dont elle a fait mention en début de rencontre est celle d'avoir pu développer une grande aisance à s'exprimer, de l'entre-gens, ainsi qu'une personnalité forte et affirmée très rapidement dans son parcours. Elle a toujours su approcher avec humilité, douceur et audace, simplement avec authenticité. Elle a aussi cette capacité à créer rapidement des liens et à les préserver à travers le temps. Cela lui a certainement servi, puisqu'elle me confie ne pas avoir eu à chercher des emplois souvent depuis le début de sa carrière. On est venu me chercher. Les emplois sont venus à moi, dit-elle avec un brin d'humour. Elle reconnaît cependant que, pour les personnes en situation de handicap, chercher un emploi peut s'avérer être compliqué. même si elle s'est fait offrir des emplois à plusieurs reprises, il y a quand même des moments dans sa vie où elle a eu à se chercher un emploi. Elle a aussi essuyé des refus. Elle a vu l'incompréhension dans les yeux de certains employeurs qui ne voulaient pas que son chien d'assistance l'accompagne sur son lieu d'emploi ou d'autres qui craignaient que certaines adaptations de travail soient trop coûteuses, même s'il y avait une subvention prévue à cet effet. C'est compliqué de trouver un emploi quand on est une personne en situation de handicap. Parfois, on n'ose pas sortir d'une situation d'emploi plus difficile, même si on en a envie, parce qu'on a peur de ne pas trouver autre chose rapidement. Elle me confie que cela lui est arrivé. Il y a certaines situations qu'elle n'aurait pas dû endurer, mais desquelles elle n'est pas sortie de peur de ne pas retrouver autre chose. Cette crainte d'avoir de la difficulté à se replacer professionnellement en raison du handicap et de la perception des autres est toujours présente. Et cela malgré elle, malgré les gens qui ont cru en elle et malgré la reconnaissance de ses compétences par ses pairs. Cette résistance a un prix, celui de l'épuisement et des conséquences qu'il engendre. Saisir et accepter ses limites. Laurence a travaillé fort toute sa vie, que ce soit pour trouver du confort dans la maladie, pour développer sa compagnie de théâtre, puis pour diriger une organisation sans but lucratif. Elle a investi son temps et toutes ses énergies dans ses emplois. Passionnée, elle se donne sans compter. Quand je me donne, j'y vais à fond. Par contre, j'ai appris avec les expériences, à reconnaître mes limites. Ce n'est pas facile, et parfois, c'est frustrant. Elle a vécu une situation d'épuisement professionnel dans le passé. Elle en est sortie maintenant, et elle reconnaît qu'elle en garde certaines fragilités. Comme pour nous tous, le temps qui passe affecte ses capacités physiques et amène son lot de complications et lui demande une grande dose de sagesse. Pour les personnes en situation de handicap, la machine s'use plus vite. Mes limites physiques, je les vois et je n'ai pas le choix de les accepter, même si c'est difficile parfois. C'est le travail d'une vie. Bien sûr, elle aurait aimé avoir plus d'endurance physique, prendre plus de responsabilités, relever encore plus de défis professionnels. Rappelons-le, c'est une authentique, une fougueuse, qui aime la vie et foncer. Ce dont elle est fière, cependant, c'est d'avoir appris à s'observer et à repérer les signes de l'épuisement avant qu'il ne s'installe. Saisir les signaux subtils des idées moins claires et du corps qui se fatigue. Elle est devenue plus indulgente envers elle-même. Elle a appris à s'entourer de personnes qui lui sont complémentaires. Nous avons tous nos limites. L'idée, c'est de s'entourer de gens qui présentent des limites différentes des nôtres, de sorte à devenir complémentaires. Encore une fois, nuance et sagesse se conjuguent dans ses propos. Savoir s'entourer de bonnes personnes est un art qu'elle maîtrise. Elle a également affiné sa capacité d'exprimer ses besoins clairement et à mettre clairement ses limites face aux demandes des autres. À toutes les jeunes personnes en situation de handicap qui en sont à leur début sur le marché du travail, Laurence leur conseille d'apprendre à s'écouter et à ne pas laisser les autres dicter leurs limites, de les définir elles-mêmes. Il faut se donner le droit de se définir soi-même. Elle aurait aussi envie de leur dire de ne pas avoir peur de foncer et même d'oser suivre leurs rêves, même s'ils sont audacieux. Il faut foncer. Il ne faut pas attendre que les autres nous ouvrent la porte. Il faut l'ouvrir nous-mêmes. Elle reconnaît qu'il faut faire preuve de réalisme quant à ses capacités. Ce qu'elle accepte tout en prenant des risques et laissant aller son côté funky, comme elle le dit. Entre douceur et audace, elle mord dans la vie essuie ses rêves. Question de rencontrer cette douce folie qui fait d'elle une femme forte, passionnée et pleine d'ardeur. C'était Laurence Perrault-Rousseau, Entre douceur et audace, un texte de Mélissa Lévy, paru dans l'édition Automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. Être femme et voyager, pourquoi pas? Un texte d'Isabelle Ducharme, paru dans l'édition Automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. Femme de tête et de cœur, interpellée depuis toujours par le droit des femmes et la capacité de faire tout ce qu'elle veut, ce numéro était un incontournable pour moi. J'ai passé ma vie à relever des défis qu'on m'a imposés ou que je me suis donnés. Certains de ces défis ont été présentés et relevés parce que je suis une femme, comme celui de me prouver que j'étais capable de passer à travers l'entraînement de base des forces armées canadiennes. J'avais besoin de me prouver que j'étais capable, et je dois avouer qu'une grande partie du défi était de démontrer qu'une femme était capable. Je n'étais certes pas la première, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes techniciennes sur les moteurs d'avion. Cette détermination et cette volonté de contribuer à l'évolution de la reconnaissance de la capacité des femmes à contribuer à la société au même titre que les hommes ne m'ont pas quittée depuis mon accident. Elles l'ont peut-être même un peu exacerbée. Maintenant que je suis tétraplégique, je travaille à l'intégration sociale des personnes en situation de handicap avec une teinte de féminisme. Je ne vous apprends rien en vous disant que la société a beaucoup à apprendre de la force des deux. Alors oui, je suis fière d'avoir été la première étudiante qui se déplaçait avec un fauteuil roulant pour faire ses études en tourisme au Collège La Salle à Montréal et d'avoir créé un précédent pour préparer l'arrivée d'autres étudiants et étudiantes en situation de handicap après moi. D'avoir siégé sur plus d'un conseil d'administration alors qu'on parle encore aujourd'hui de la minorité de femmes présentes en poste de gouvernance et d'être invitée à donner des conférences de sensibilisation-motivation et de planification touristique. Ça m'a pris du temps, mais aujourd'hui, je me permets d'être fière. Je suis également enchantée de prendre connaissance des accomplissements des femmes aujourd'hui, doublement si elles sont en situation de handicap, et de partager les défis qu'elles relèvent, des plus grands aux plus petits. J'arrive donc à cette question du voyage. Tellement de personnes se demandent s'il leur est possible de voyager, mais encore plus lorsqu'elles sont en situation de handicap. Et une femme de surcroît. Pourtant, peu importe notre situation personnelle, il y a une panoplie d'options qui se présentent à nous. Il est certain que les premières questions sont rattachées au budget, au temps disponible et à ce qui nous intéresse. Notre degré d'autonomie et nos limitations fonctionnelles doivent également être au cœur de nos réflexions et des choix d'activités touristiques. À titre d'exemple, comme je suis tétraplégique, dépendante de quelqu'un pour me lever et me coucher, je sais que, dès que je veux faire une escapade ou un voyage qui implique une nuitée et plus, je dois absolument partir avec quelqu'un pour m'accompagner. Comme je suis aussi une personne qui aime bien faire des activités à mon rythme, je ne me gêne pas de faire des activités touristiques et culturelles agrémentées d'expériences gastronomiques seule. Je ne manque pas d'opportunités à Montréal, mais j'apprécie également prendre le train pour faire un aller-retour à Québec ou utiliser les services du transport adapté de la STM pour aller faire des activités à Montréal ou dans la périphérie nord et sud, dans la zone de couverture qui m'est offerte. J'ai des coups de cœur pour certaines activités touristiques à l'international, mais également pour me promener seule, en toute sécurité. L'Espagne est un pays très développé en termes d'accessibilité. C'est d'ailleurs le seul endroit où j'ai eu le bonheur d'utiliser le métro pour me rendre à la plage. Plus près du Québec, il y a bien sûr l'ensemble des grandes villes touristiques des États-Unis, mais plus particulièrement pour moi, le centre touristique de Las Vegas. Un des rares endroits où je peux laisser ma préposée ou les personnes qui m'accompagnent se prélasser à la piscine pendant que je me promène en solo et visite la splendeur du Strip, sans oublier les salles de spectacle qui ont des places de choix réservées pour les personnes qui se déplacent avec une aide à la mobilité. Pour ce qui est des destinations ensoleillées, prisées par les Québécois, j'ai une préférence pour la région du Yucatan au Mexique parce que je connais la directrice de Cancun Accessible, une entreprise de transport adapté, de location d'équipement médical et de tours guidés. Seul ou accompagné, avec des amis ou des membres de la famille, les opportunités de faire des activités touristiques sont présentes. Il suffit d'en profiter. Quelques trucs pour voyager en toute sécurité. S'informer sur l'inclusion et l'accessibilité présente sur le lieu de destination avant le départ. Utiliser les services de transport adapté ou de taxi une fois arrivé à destination. Vous serez embarqué et débarqué au bon endroit. S'assurer d'avoir un contact en cas d'urgence, sur place et à distance. Si vous voyagez seul, gardez un contact régulier avec votre famille ou vos amis, question de s'assurer que tout va bien. Faire affaire avec un agent de voyage expérimenté dans la préparation d'un voyage avec une personne en situation de handicap, cette personne pourra vous aider à préparer votre voyage, mais également à trouver des solutions en cas de pépin. Pour les personnes que le voyage insécurise, la croisière peut être une option intéressante et rassurante. Il n'y a pas de barrière de langue, il y a un service médical sur place et pas de souci de salubrité de l'hébergement ou des restaurants. Tout en profitant d'escales dans des endroits que vous pouvez choisir en fonction de vos goûts et de vos intérêts. C'était « Être femme et voyager, pourquoi pas » un texte d'Isabelle Ducharme, paru dans l'édition Automne-hiver 2023 du magazine Paraquat.